Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Et nous y sommes, 7h12, à lui aussi, c'est un beau bébé, franchement. C'est l'expert idéal dans le domaine de la maison qu'on a et qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir tous les samedis entre 7h et 8h. Lui, c'est Christian PC. Bonjour.
Mais
Christian.
Bonjour François, vous allez bien?
Ah bah, formidable.
Il paraît que vous êtes la vache ce matin.
Écoutez, non, bon. je ne sais pas. Là, on est en train de décerner les prix. On ne sait pas qui va être le plus beau. Le salon d'agriculture, vous allez y faire un tour ou pas? Non.
Oui, je vais y faire un tour. J'essaie de construire pour la semaine prochaine un sujet sur les produits de l'agriculture dans la maison.
Ah, d'accord.
Ça me paraît très sympa.
Forcément écolo, bio, etc.
Les matériaux de construction.
Bon pour la planète.
Tout ça.
Eh bien, écoutez, on écoutera ça la semaine prochaine. Mais dans l'immédiat, tout à l'heure, on évoquera. Eh bien, les punaises de lit, ça, c'est votre coup de cœur. Alors, non pas les punaises de lit, parce que franchement, c'est un vrai stress. Mais on a l'impression que le gouvernement prend le problème à bras le corps.
Oui, il y a un plan qui a été dit plan punaise, plan anti-punaise, en fait. Et donc, je vais en parler. Et on développera le sujet. On l'avait fait il y a un certain nombre d'années. En 2013, j'avais annoncé ici même la prolifération des punaises. Mais ça a mis un peu de temps avant de bouger dans le cerveau de.
Qui est une vraie catastrophe. Enfin, les punaises de lit, c'est une vraie catastrophe.
C'est quand même extrêmement préoccupant parce que là, on en parlerait aussi avec Christian Ricard, ça a des conséquences sur la santé.
Bien sûr, des conséquences sanitaires, en effet. Est-ce que vous êtes bien assuré contre les tempêtes, les inondations, les vagues, etc.? Ça sera notre dossier de ce samedi matin.
Oui, ça souffle, ça pleut, ça vague, si j'ose dire.
Ben oui,
ça submerse depuis quand même pas mal de temps. Il y a des régions, on en a marre. Hein. Moi, je peux vous dire que en Normandie, où je suis une partie de la semaine, ça souffle presque tous les jours. Il y a vraiment des gros coups de vent. Je discutais avec Patrick tout à l'heure parce que j'ai une haie qui s'est complètement couchée sur 3-4 mètres. Il y a vraiment...
C'est très préoccupant. Il y a vraiment un vent très puissant qui a fait ça. Hein.
On nous annonce des tempêtes avec des noms charmants, mais entre les tempêtes, ça souffle encore. Donc, j'ai pensé qu'il était intéressant de voir la liaison avec l'assurance, comment donc on peut être bien assuré et bien indemnisé. On verra ça donc tout à l'heure avec Stéphanie Durafour, qui est porte-parole d'Assureland.
Et bien sûr, vous pouvez à tout moment joindre Christian PC, qui assure en termes de maison. Hein. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez.
Enfin, j'essaye.
Vous ne pourrez pas le mettre en défaut. 3216, l'appli RMC Direct Studio. Merci d'être là. Un bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on attaque tout de suite avec Romain qui est là.
Oui.
Bonjour Romain.
Bonjour. Bonjour François.
Bonjour Romain.
Bonjour Christian.
Romain d'Ille-et-Vilaine.
C'est bien ça.
Voilà, bah écoutez, on vous donne la parole, mon cher Romain. Qu'est-ce qui vous arrive?
Super, merci. Et du coup, je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué la semaine dernière concernant les remontées capillaires dans les murs.
Oui.
Sur les maisons qui n'ont pas de. Justement, qui ont des fondations qui prennent directement au sol. Il y a une maison que l'on a, sur laquelle on envisage, en fait, une maison qu'on envisage d'acheter. Sur laquelle on a ce problème de remontée d'humidité qui crée des problématiques de salpêtre. Et je voulais revenir sur une technique que vous êtes passé dessus assez rapidement, Christian, concernant l'électrophorèse ou électroosmose. Moi, c'est vraiment une technique qui, à mon avis, pourrait solutionner la problématique que l'on a, mais je voulais avoir un avis un peu plus éclairé et peut-être également des noms de gens sérieux qui sont capables de faire ce type de traitement.
Alors, je suis toujours réservé sur ce que j'appelle les électromachins. Parce que
les électromachins,
l'électrophorèse, l'électroosmose, électromagnétique, etc. Bon, le principe c'est quoi? C'est d'inverser la polarité de la maison et de électrique, on va dire, et de faire en sorte que justement l'eau, eh bien, au lieu de monter, elle descende. Alors c'est présenté comme ça, ça a de quoi faire douter parce que il faut vraiment des conditions extrêmement précises pour que ça marche. Alors ça marche. Ça marche notamment depuis très longtemps. Par exemple, les grands ouvrages ferroviaires, les tunnels, par exemple, sont traités avec de l'électrophorèse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut trouver la bonne entreprise. Alors vous me demandiez des noms, je ne vais pas vous donner les noms parce que d'abord je ne les connais pas et puis je serais bien incapable de vous dire avec certitude celles qui sont scientifiquement et techniquement à même de faire ce type de traitement. Il faut être extrêmement prudent. Vous pouvez faire appel à un expert indépendant. Aller vers des cabinets comme l'AMI Expertise qu'on a eu plusieurs fois, auquel on a eu plusieurs fois recours dans cette émission, pour véritablement faire analyser, parce que ça coûte cher finalement. Alors, ça coûte apparemment moins cher que d'autres méthodes, mais finalement ça coûte cher. Mais s'il y a simplement un petit boîtier avec un voyant qui s'allume derrière, parce qu'il y a ça. C'est un champ, je dirais, tellement difficile à cerner il y a plein de margoulins qui se promènent et qui vous vendent des trucs, des machins, qui ne marchent pas. Donc il faut vraiment... Alors d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que la première des choses, c'est, et je le dis sans arrêt, je vais encore le dire tout à l'heure dans mon conseil de l'expert qui va encore porter sur l'humidité et sur les infiltrations, la première des choses, enlevez l'eau. C'est-à-dire, c'est la source qu'il faut tarir. C'est pas le mal qu'il faut guérir, c'est l'origine du mal. Donc si vous avez la possibilité d'avoir du terrain autour, faites analyser pour savoir, c'est par un spécialiste de l'humidité, par exemple un expert, de savoir s'il vaut pas mieux drainer autour pour éloigner l'eau. Encore une fois, c'est pas les conséquences qu'il faut traiter. Très souvent, on traite à l'humidité, il y en a encore qui le font, par l'intérieur, en disant je vais mettre un produit hydrofuge et ça va marcher. Ben non, il y a un moment où ça marche pas parce que les fondations s'humidifient. Et oui. Je rappelle que la capillarité, c'est quoi ? C'est que votre maison, elle est sèche globalement, elle trempe les pieds dans l'eau, et là, à ce moment-là, il y a un phénomène de buvard qui se produit. Donc voilà tout ce que je peux vous dire.
Mais comment c'est la solution de drainer, c'est quelque chose qui est pas, dans le cas actuel, on s'est déjà renseigné, c'est vraiment pas possible. C'est pour ça qu'on est obligé de trouver une solution.
Mais attendez, pourquoi c'est pas possible?
Parce qu'en fait, là, typiquement, c'est, je vous ai envoyé une photo, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un mur intérieur de la maison. Et en fait,
autour, et vous n'avez pas accès au mur extérieur ? Ah, c'est la chaussée. Ah, bah alors, c'est tout. C'est que, bah alors, demandez à la mairie de vous mettre un caniveau. C'est aussi bête que ça.
Bah oui, parce que.
Tout simplement parce que j'ai eu un ami qui avait ça il n'y a pas très longtemps et qui voulait faire des quantités de travaux. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y avait le trottoir, il n'y avait même pas de trottoir, il y avait la chaussée qui arrivait directement, l'eau ruisselait. Et je lui ai dit, va voir ta mairie pour qu'ils te mettent un trottoir et un caniveau. Il a fait ça, ça a réglé le problème.
Ça a changé.
Bah, évidemment. Il faut empêcher l'eau d'arriver. Bien c'est sûr. Ça la logique.
Parfait, merci beaucoup Romain pour votre appel. Il est 7h20, monsieur Christian Pessé, oui. Et il est temps de retrouver votre conseil béton de ce samedi.
RMC, votre maison.
Le conseil béton,
non, attention.
Béton.
De Christian Pessé.
Ça c'est le deuxième piste. On va parler d'humidité dans la maison. Eh oui, on continue encore notre saga sur l'humidité dans la maison pour évoquer les infiltrations.
Oui, la semaine prochaine, on traitera la condensation. Alors après, les remontées capillaires, les infiltrations sont certainement la deuxième grande cause d'humidité dans la maison. Ça regroupe toutes les formes d'humidification du bâti qui sont dues à des pertes d'étanchéité, ce que les professionnels appellent l'enveloppe. Alors c'est quoi ? C'est la toiture, la terrasse, les descentes d'eau, les réseaux d'eau, la façade et les ouvrants, la cave et le vide sanitaire. Alors il y a quoi dans tout cela ? Il y a l'eau d'infiltration, c'est la première. Par principe, à la différence des remontées capillaires, l'eau ça coule du haut vers le bas. C'est la gravitation. Par exemple, lors d'une fuite de toiture, d'un problème de terrasse au dernier étage, d'un problème de gouttière. Alors ça se manifeste de façon évidente. C'est quoi ? C'est des gouttes d'eau qui passent dans la dans la maçonnerie. Alors attention, c'est que la fuite n'est pas forcément à l'endroit où l'eau apparaît, parce que l'eau, ça peut suivre par exemple une poutre, une solive, une canalisation. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut recourir au service d'un couvreur qui va regarder dans quel état est votre couverture. Les réseaux d'eau, bah, évidemment, les canalisations d'alimentation et d'évacuation, bah, c'est aussi à l'origine d'infiltration. Alors lorsqu'elles sont apparentes, c'est assez facile, encore que ça puisse là aussi suivre le chemin de la canalisation. Évidemment, quand c'est doublé avec du placo, avec de la plaque de plâtre, pour ne pas faire de publicité. Et puis surtout, vous savez, les marques sont très attentives à ce qu'on n'utilise pas leur nom comme générique. Eh bien, derrière, bah là, il va falloir enlever la plaque de plâtre, le doublage, les lambris, par exemple. Là, c'est qui? C'est en général, c'est un plombier qu'il va falloir faire intervenir. Alors, les infiltrations de façade. Ah oui, ça. Alors, ça se manifeste généralement de l'extérieur. On voit, vous savez, des traces d'eau, on voit des traces d'humidité qui apparaissent à l'extérieur. Alors, il va y avoir différentes causes. Ça va notamment être des problèmes de fissures, des problèmes aussi d'enduit. Et puis là aussi, parce qu'avec cette mode des pierres apparentes, on a enlevé le crépi. Et puis, c'est très joli peut-être esthétiquement, mais c'est la meilleure façon pour avoir des infiltrations de façade. Et qui on va appeler? La barre, on va appeler le maçon. Alors enfin, il y a la cave, le vide sanitaire. Là, ce sont des remontées de nappes phréatiques qui peuvent se produire. Extrêmement difficile à gérer. La seule solution, véritablement, c'est de faire un cuvelage. Le cuvelage, c'est quoi? C'est une boîte en béton avec un béton hydrofuge qu'on va mettre dans la cave, en quelque sorte. Tout devient le sol, les parois deviennent enduites de façon à être étanches. Alors, il y a toujours une nécessité, c'est de faire un puits. Alors, c'est un peu compliqué, hein, un puits de décompression. Sinon, à la limite, votre maison, elle serait soulevée par la puissance. Il y a des piscines comme ça qui se retrouvent soulevées parce que la nappe phréatique remonte. Et vous retrouvez avec la piscine, comme c'est une coque, vous retrouvez avec la piscine 5 mètres plus loin. C'est assez gênant. Oui. Mais en tout état de cause.
Surtout si elle est pleine.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un puits de décompression et on met une pompe dedans. Et donc quand la nappe phréatique remonte, eh bien on pompe, pour autant que ça soit pompable, si j'ose dire. Les Shadocks en ont connu quelque chose, ça veut dire qu'ils pompaient en permanence. Eh bien là, il va falloir une entreprise d'assainissement pour vider la cave et puis il va falloir un maçon pour le cuvelage. Et puis sinon, évidemment, il faudra peut-être changer de maison. Faites attention, j'entendais notre auditeur là dire je suis sur le point d'acheter une maison, il y a des remontées capillaires, on peut s'interroger si c'est vraiment raisonnable d'acheter des maisons qui sont déjà en état d'humidification. Pardon pour tous ceux qui en vendent et qui veulent s'en débarrasser.
C'est clair. Bon, Christian, on revient dans un instant. Il est 7h24. On a parlé d'humidité et là, on va parler de grandes eaux.
Oui, aussi. Il n'y a pas que de l'eau, il y a du vent.
Il y a du vent, bien sûr. Le vent peut détruire une maison, en tout cas des installations, etc. On voit la puissance du vent, les rafales. Surtout, on a l'impression que rien ne peut résister à une grande rafale de vent. C'est impressionnant. On en parle dans un instant et puis on va surtout évoquer les indemnisations. Est-ce que on est bien assuré pour être indemnisé en cas de d'intempérie, on va dire grave. Puis on va peut-être revenir sur la législation parce que tout ça est très normé
par exemple catastrophe naturelle.
Dans un instant, vos questions sur ce sujet. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Vous avez été justement visé par ces tempêtes. Votre maison a été abîmée. Est-ce que vous avez contacté votre assurance? Comment ça s'est passé? N'hésitez pas. 32-16, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone si vous nous laissez un message sur Direct Studio. On revient juste après la météo.
RMC, 7h-8h. Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Un petit vent, joli vent, court dans les rues et les champs et siffle gaiement, siffle le réveil.
Alors là, c'est un petit vent, mais je ne suis pas persuadé que ce soit celui dont vous voulez nous parler, mon cher Christian.
Non, on va plutôt parler du grand vent, des grands vents.
Enfin, Michel Fugain, c'est bien sympathique.
Oui, hein, mais je ne connaissais pas du tout cette chanson de Michel
non,
Fugain.
Non, mais ça, c'est la petite particularité balade. De Paul de nous retrouver des chansons que même les interprètes ne connaissent pas.
Ils les ont oubliées, quoi.
C'est très fort. Christian, on va évoquer donc les tempêtes, les inondations, les vagues, les submersions. Est-ce qu'on est bien assuré pour tout ça?
Voilà, est-ce qu'on est bien assuré? Il y a même, parce qu'on parle, pluie, il y a aussi des pluies diluviennes ces derniers temps. Et il y a des glissements de terrain dans les régions de montagne ou
on
de
voit encore
de
des
montagne.
Reportages à la télévision de maisons qui sont inondées.
Oui, et puis de maisons qui s'écroulent même, qui sont emportées. Donc,
vos témoignages là-dessus, 32-16, voilà. Dès maintenant, on vous attend.
Nous avons avec nous Stéphanie Durafour, bonjour.
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 Vous êtes porte-parole d'Assureland, donc vous n'êtes pas directement un assureur, vous êtes un comparateur?
Exactement, Assureland.com c'est un comparateur d'assurance en ligne, donc ce qu'on propose c'est d'aller rechercher pour les internautes les meilleures offres d'assurance, celles qui vont correspondre à leur profil, au niveau de garantie qu'ils souhaitent et au meilleur prix. Donc pour ceci c'est très simple, ils se rendent sur notre site, ils vont choisir le produit qui les intéresse et on va aller chercher pour eux.
D'accord, et j'ai vu qu'il y avait du conseil aussi sur votre site, il y a aussi du contenu, c'est pas seulement du comparatif.
Exactement.
Alors la première question qui se pose et que je vais vous poser, c'est comment on peut être sûr d'être bien assuré? On parle souvent des petites lignes des contrats d'assurance. C'est quoi la bonne couverture par-delà la notion de multirisque? C'est-à-dire, comment être sûr d'être assuré correctement contre la tempête, contre les inondations, et ne pas seulement attendre ou bénéficier, entre guillemets, de l'état de catastrophe naturelle?
Alors, pour être bien indemnisé quand on est face à un événement climatique extrême tel qu'une tempête, une inondation, la première chose à savoir, c'est qu'il faut avoir souscrit un contrat d'assurance.
Ça va de soi.
Ça va de soi.
C'est pas obligatoire. Hein,
c'est mieux.
L'assurance multirisque habitation, sauf pour le particulier qui loue.
Exactement. Voilà. C'est obligatoire pour le locataire, c'est obligatoire pour le propriétaire en copropriété.
D'accord. Mais si là, sa maison, si on a une maison individuelle, on l'habite pour soi-même, si j'ose dire, il n'y a pas d'absolue obligation.
Il n'y a pas d'absolue obligation. La seule chose, c'est que vous risquez de ne pas pouvoir prétendre à une indemnisation.
Même en cas de catastrophe naturelle?
Même en cas de catastrophe naturelle.
Oui, ça, c'est important.
C'est ça qui est important à rappeler, c'est que quand l'état de catastrophe naturelle est déclaré, si vous n'êtes pas couvert par une assurance, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnisation.
Alors, pour une assurance complète, c'est-à-dire du tout risque, qu'est-ce qu'il faut comme clause?
Alors, dans les assurances habitation multirisque, on va retrouver la garantie tempête. C'est une obligation.
D'accord.
Et
ce qui n'était pas le cas autrefois. Hein.
Ce qui n'était pas le cas autrefois.
Ah, c'est nouveau, ça.
Il y a plusieurs dizaines d'années, ce n'était pas le cas. Hein.
Donc, cette garantie tempête, elle va s'appliquer quand on va avoir des vents qui vont au-delà de 100 km/h qui vont causer des dommages. On va également avoir une garantie inondation et une garantie catastrophe naturelle qui va s'appliquer quand l'état de catastrophe naturelle va être déclaré par l'État. C'est vraiment ça qu'il faut avoir sous les yeux. Quand on souscrit son contrat, il faut être vigilant, effectivement, comme vous le rappeliez, aux petites lignes. Donc ça va être le niveau de garantie qu'on a souscrit, notamment le capital mobilier, puisque l'assureur ne va pas pouvoir indemniser au-delà du capital mobilier qu'on a choisi. Si on a souscrit un capital mobilier de 3000 euros, on ne pourra pas être indemnisé au-delà.
Même en cas de catastrophe naturelle, c'est pareil.
Même en cas de catastrophe naturelle.
D'accord.
L'état de catastrophe naturelle, il va permettre trois choses. Il va permettre, effectivement, d'avoir un délai qui est un petit peu plus long pour déclarer son sinistre. 10 jours ouvrés au lieu de 5 jours.
Ah oui, vous parlez.
Voilà. Bon. Il va permettre d'avoir une franchise fixe de 380 euros.
D'accord.
Qui potentiellement peut être une meilleure indemnisation pour les particuliers. Et il va... c'est vraiment une meilleure indemnisation pour les particuliers.
D'accord. Alors, si on a des dégâts, par exemple, j'ai ma toiture qui s'envole.
Déjà, c'est embêtant.
Non, mais une partie, il peut y avoir une partie importante.
Bien sûr.
Qu'est-ce que je vais devoir faire? Vous m'avez dit la déclaration en 5 jours.
Exactement. On a 5 jours ouvrés pour déclarer le sinistre à l'assureur. La première chose à faire, ça va être effectivement de constater les dégâts, idéalement de prendre une photo, de prendre des photos aujourd'hui avec les smartphones, c'est assez facile de prendre des photos, voilà, de ce qu'on constate, de déclarer à son assureur de lui dresser l'état des lieux et de joindre à cet état des lieux la liste de tout ce qui a été endommagé pendant le sinistre.
D'accord. Mais alors on dit souvent, faut rien faire, rien toucher. Mais il faut quand même faire en sorte que ça ne s'aggrave pas.
C'est une obligation pour l'assuré.
D'accord.
L'assuré a l'obligation de protéger c'est bien pour qu'il ne puisse pas être accusé par l'assureur d'avoir créé un endommagement. Donc typiquement, dans le cas d'une inondation, on va ouvrir les portes pour que l'eau s'écoule, on va essayer de vider, on va
bâcher. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de bon sens pour minimiser en fait les dégâts, c'est ça.
Exactement. Par contre, il ne faut pas enclencher des réparations tant que l'expert n'est pas passé.
D'accord. Mais Christian, juste une question. Est-ce que c'est pertinent de faire venir un spécialiste, enfin je sais pas moi, un artisan qui peut constater lui-même les dégâts pour après les déclarer à l'assurance?
Non, ce qu'il faudra,
parce qu'on n'a pas forcément nous le bon vocabulaire, si on n'est pas expert.
Voilà, si on a une inquiétude, on peut faire un constat d'huissier, hein, c'est possible, pour voir en quel état c'est. On peut faire intervenir un expert, mais pas immédiatement. Le mieux, c'est déjà, comme Stéphanie vient de le dire, c'est empêcher qu'il y ait une dégradation. S'il y a une fuite d'eau, il faut neutraliser la fuite d'eau. Il faut faire venir tout de suite en urgence, on peut dire ça. Hein.
Exactement. Sinon, effectivement, l'assureur pourrait considérer que l'assuré n'a pas à endommager le bien et risque d'avoir une indemnisation qui est potentiellement sera moins bonne.
Mais par exemple, j'évoquais le cas d'une partie de toiture qui s'envole ou qui est très dégradée. Là, il va falloir faire bâcher.
Il va falloir faire appel à un artisan.
Oui, mais quand il y a des dégâts, on n'en trouve pas.
Voilà, c'est que quand il y a des événements climatiques majeurs qui vont se concentrer dans une zone, les artisans vont être débordés. Donc, effectivement, il faut faire avec les moyens du bord. En tout cas, il faut essayer de minimiser les dégâts. C'est très important.
Il faut montrer qu'on a fait des efforts.
Exactement.
Par exemple, l'envoi d'un mail à une entreprise, des choses comme ça.
Toutes les preuves, effectivement, pourront jouer en notre faveur.
Admettons, ma toiture s'envole. La maison est inhabitable. Qu'est-ce que je fais? Je peux prendre moi l'initiative d'aller à l'hôtel directement en espérant être remboursé, ou est-ce qu'il faut que j'ai un accord de l'assureur avant? Comment ça se passe?
Alors ça va dépendre du contrat d'assurance. Certains contrats prévoient des frais de relogement.
Quand la maison est complètement inondée,
mais
on peut pas vivre dedans.
Ça entre dans les clauses qu'il faut vérifier.
Ça entre exactement dans les clauses qu'il faut vérifier. Les services, les frais de relogement, des frais de gardiennage, si on doit quitter son logement, sont des choses qui peuvent être proposées par les assurances. Il faut vérifier effectivement ces contrats, c'est très important.
Donc il faut souscrire à ces options, parce que souvent c'est des options en amont, c'est ça hein?
Alors, ce sont des options. On parlait notamment des petites lignes. Dans le cadre d'une tempête, il faut rappeler qu'il peut y avoir des exclusions. Typiquement, ça va être tout ce qui concerne le jardin, les plantations, les clôtures, les abris qui sont de construction légère ne font pas automatiquement partie des choses qui sont couvertes. Ce sont des options qui vont forcément peser sur le prix du contrat.
Alors, je vais être un petit peu, j'aime peut-être gratter là où ça fait mal, mais vous êtes un comparateur d'assurance. Vous allez nous indiquer nous proposer tel type d'assurance, mais au bon vieux temps, moi j'ai connu ça, il y en a encore qui le connaissent, il y a des courtiers, il y a un rapport humain. Est-ce que ça, on ne le perd pas avec un système comme le vôtre?
Alors, au contraire, dans notre société moderne, on a besoin d'avoir une information qui est rapide, qui est claire, qui est efficace. Nous, ce qu'on propose, c'est gratuit. Ça dure 2 minutes. On remplit un formulaire, que ce soit auto, santé, habitation, etc. Et on vous restitue les offres des grands assureurs avec le prix qu'ils vous proposent, le niveau de garantie qu'ils vous proposent. On peut comparer très simplement.
Y compris les petites lignes.
Vous pouvez recevoir un devis. Ça dure quelques secondes et vous pouvez comparer très facilement. Et il n'y a aucune obligation d'engagement. L'internaute choisit s'il souhaite souscrire directement auprès de l'assureur ou pas. C'est
parce
gratuit.
Parce que comparer une assurance, enfin les assurances,
c'est pas toujours simple.
Pas toujours très simple.
C'est complexe.
Alors on se résume, donc faire en sorte que les dégâts ne s'aggravent pas. Peut-être stocker aussi, parce que tous les objets qui ont pu être abîmés, les matériels électroportatifs, les matériels de gros électroménagers, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On les met aussi de côté au sec,
à la sous poubelle.
Une bâche, mais si on les met à la poubelle, qu'est-ce qui va se passer? Vous pourrez pas, enfin l'assurance pourra pas indemniser.
Alors, pour répondre à votre question, effectivement, tout ce qui concerne le matériel, il faut essayer de pouvoir le mettre à l'abri. Et ce qui est très important à rappeler, c'est de conserver les factures, les contrats, les documents qui vont prouver qu'on avait ces objets.
C'est facile à dire, ça, mais moins facile à faire. C'est-à-dire que vous avez, vous, votre facture, François, de téléviseur?
Oui, dans un tiroir, quelque part, au fond,
Il ne faut pas que le tiroir, il est...
Non, mais voilà, mais c'est vrai que, par exemple, on stocke tous ces documents, je ne sais pas, moi, dans le garage. Si le garage a été inondé, qu'est-ce qui se passe? passe. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un
problème. Qu'est-ce qui se passe? On photographie l'appareil et puis l'assurance évalue en gros sa valeur?
Alors, une photographie, effectivement, ça peut être très utile. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, il faut effectivement essayer de conserver tous ces documents à l'abri.
Peut-être scanner ces documents aussi, peut-être avant, non?
Les scanner, aujourd'hui...
Dans l'ordinateur qui, à ce moment-là, est mouillé.
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le smartphone, c'est très simple de prendre des photos, des documents. On achète un bien qui a une valeur. L'idée, c'est de prendre tout de suite en photo la facture. Vous la stockez, comme ça, c'est fait.
Exactement, il y a même des enseignes aujourd'hui qui envoient par email les factures. Donc,
oui.
Ça permet de les conserver.
Voilà, dans le cloud, enfin, elles sont...
Exactement.
On peut parler des notions de vétusté, parce que ça, c'est encore... des fois, on considère que c'est des clauses d'arnaque, excusez-moi, mais la vétusté, c'est quoi? Parce qu'on vous dit, ah oui, je vais vous payer ça, mais je vais vous rembourser, mais avec la vétusté.
C'est un peu le contraire de vous, parce que finalement, plus vous vieillissez, plus vous prenez de la valeur.
Mais absolument.
Alors qu'une télé, c'est l'inverse.
Voilà, surtout une maison, quoi, aussi. Donc, c'est quoi?
La vétusté, ça va être un calcul qui va être réalisé par l'expert pour déterminer combien votre bien vaut aujourd'hui sur le marché, donc il va tenir compte de son ancienneté, de son utilité, de l'usage que vous en avez fait.
Mais attendez, la vétusté, en général, c'est pour vous dire qu'on va vous rembourser moins. La valeur d'une maison, elle a pu augmenter. Est-ce que ça va jouer sa valeur vénale, je veux dire?
Alors, effectivement, quand on souscrit son contrat d'assurance, on va devoir faire attention à si on souhaite être indemnisé sur la valeur à neuf, notamment.
Oui.
Ça, c'est très important. La valeur à neuf, parfois, il y a des... on se trompe, on pense qu'on va être remboursé sur...
Au prix du matériel neuf d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça.
Et c'est pas du tout le cas. On va être remboursé au prix d'un matériel équivalent aujourd'hui, donc qui va pas forcément tenir compte de l'évolution technologique, qui va être équivalent à ce que vous aviez.
J'ai une télé qui a 15 ans, on va me la rembourser à valeur à neuf prix qu'elle valait il y a 15 ans?
C'est à peu près ça, effectivement.
Ah oui.
On va vous la rembourser avec effectivement les qualités qu'elle avait il y a 15 ans, qui sont peut-être plus forcément celles d'aujourd'hui.
D'accord. Côté indemnisation, on est indemnisé dans quel délai? Et si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, côté indemnisation, il y a plusieurs choses. La première, c'est on va être indemnisé. Alors, quand il y a l'état de catastrophe qui est promulgué, ça permet d'être indemnisé plus rapidement parce que les assureurs ont l'obligation de vous verser une première provision sous 2 mois. Typiquement, sinon, ça peut prendre quelques mois, le temps que vous vous mettiez d'accord avec votre assureur sur le montant de l'indemnisation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire venir à vos frais un contre-expert.
À vos frais.
Et là, il va s'engager une bataille d'expertise, de contre-expertise, qui peuvent aller jusqu'au tribunal. Avant d'aller là, on peut faire appel au médiateur de l'assurance.
Alors attendez, médiateur, parce qu'il y a deux médiateurs en réalité. Il y a votre médiateur, enfin votre médiateur,
le médiateur de l'assurance,
puisque vous n'êtes pas assureur directement, mais il y a aussi le médiateur des assurances. C'est ça, non?
Écoutez, il y a en tout cas le médiateur de l'assurance qui permet de régler les
litiges.
Déjà régler
90% des litiges.
Effectivement, c'est très important. Il faut se tourner vers le médiateur avant de se tourner vers les tribunaux. Dans tous les cas, c'est l'assuré qui est pénalisé parce qu'en attendant, lui, il attend son indemnisation, il attend de pouvoir enclencher des travaux. Donc, c'est toujours très long.
Et s'il n'y a pas d'accord, donc on va revenir au tribunal évidemment. Mais en cas de litige grave, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un drame pour les gens. Vous me dites plusieurs mois, mais vous faites aussi, il y a aussi les assurances font des avances sans être en catastrophe naturelle. Ça existe?
Oui, certains assureurs, évidemment, se montrent très conciliants, peuvent proposer des avances. Oui, il faut être en discussion avec son assureur, c'est très important.
Si les assureurs ne veulent plus vous assurer parce que vous avez eu 3 dégâts tempête de suite, parce que ça arrive aussi, il y a un organisme, comment ça s'appelle?
Tout à fait, il y a un organisme qui permet de vous trouver un assureur si vous n'arrivez pas par vous-même à trouver un assureur parce que vous êtes victime de sinistres trop répétitifs. C'est le Bureau Central de Tarification. Il faut se tourner vers eux pour qu'ils puissent vous attribuer un assureur.
Alors, on le trouve facilement sur Internet.
Oui, mais à quel prix? C'est ça le problème.
Alors,
c'est
qu'on va
se trouver avec un assureur.
On peut pas savoir.
Qui va coûter sans doute plus cher, qui va peut-être.
Le coût moyen, justement, d'une assurance multirisque, c'est quoi? Costaud, on va dire.
Alors, une assurance habitation, on estime qu'en moyenne, pour un appartement, on va être autour de 250 euros. Pour une maison de 350 euros, ce prix, il peut évidemment varier en fonction de la surface de votre bien assuré et de la région dans laquelle vous habitez.
Oui, parce qu'il y a des régions qui sont peut-être plus à risque pour les cambriolages, des choses comme ça, et ça fait augmenter le prix de la prime.
Très bien, merci beaucoup. Stéphanie Durafour, vous êtes porte-parole d'Assurland.com, c'est ça ?
Exactement.
Merci.
Il est 7h43, Christian, on va revenir dans un instant, on va retrouver vos questions au 32-16 et on va parler des punaises de lit. Tiens, et j'aimerais bien que ce matin, vous nous appeliez sur ce sujet. Est-ce que vous avez été victime d'invasion de punaises de lit ? Est-ce que vous en avez eu, Christian ?
Moi non, moi j'ai eu à une époque des blattes.
Des blattes ?
Des cafards. Alors, c'est moins gênant parce que ça pique pas, mais ça prolifère à une vitesse. C'est très désagréable, une notion d'invasion.
Ah bah oui, et, bien sûr. Surtout si ça rentre dans votre lit.
Non, ça n'a pas rentré. Mais bon, non. Ça peut y arriver un point, mais c'est.
J'ai l'impression que Stéphanie, notre invitée, va s'évanouir en évoquant les cafards.
On en parlera aussi. On se fera une émission cafards et punaises prochainement.
Donc, punaises de lit, on va en parler dans un instant, puisque vous vouliez réagir sur cette bonne initiative du gouvernement pour combattre les punaises de lit. Mais donc, si vous voulez témoigner ce matin sur ce sujet, on va avoir quelques minutes. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans un instant, quasi 8h moins de quart. À tout de suite.
RMC. Jusqu'à 8h. Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, dans un instant, nous allons évoquer le plan de lutte du gouvernement contre les punaises de lit. Le gouvernement qui veut éradiquer ce fléau avec toute une batterie de services qui vont être mis en place. On va en parler dans un instant. Vous voulez réagir, poser vos questions sur ce sujet 32-16, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Mais auparavant, c'est Guillaume que nous accueillons.
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et bienvenue Guillaume, on vous attend. Enfin, on vous attend, on vous écoute surtout.
Alors moi je vous appelle parce que on a acheté une maison qu'on a fait rénover et on a des problèmes d'humidité et de condensation.
Ben oui, vous aussi.
Voilà. Du coup, on m'a conseillé de faire des aérations sur les murs. Parce que on a rénové, on a changé les fenêtres qui étaient des fenêtres en bois pour mettre des
grand classique, grand classique.
Et on n'a pas d'aération sur les nouvelles fenêtres. Du coup, on m'a conseillé de faire des aérations au mur, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre.
Alors, c'est une vieille maison ?
C'est une maison des années 90.
Donc, ce n'est pas vraiment une très vieille maison. Et vous n'avez pas de VMC ?
Non, pas de VMC.
Donc, n'allez pas faire des trous dans les murs. Et même les ouïes dans les fenêtres, ça ne fonctionne que si vous avez, un courant d'air dans la maison. C'est-à-dire si vous avez une maison qui est en dépression et qui fait que ça aspire l'air de l'intérieur et de l'extérieur à travers, donc, effectivement, des ouïes, des perforations que vous décriviez. Mais pour que ça marche, principalement, il faut qu'il y ait... une source d'aspiration ou alors de suppression de la maison. Ça veut dire que, soit il faut que vous mettiez une VMC, si possible double flux, mais c'est pas facile parfois dans les maisons anciennes, soit il faut que vous mettiez une ventilation, alors on appelle ça des VMI, ventilation mécanique par insufflation, c'est-à-dire qu'on va puiser l'air à l'extérieur, on le pousse, au lieu de l'aspirer avec les VMC. Mais vous pourrez faire tous les trous dans les murs que vous voulez, si vous n'avez pas un système qui vous met soit en surpression, soit en dépression, ça n'aboutira à rien. C'est la ventilation qu'il faut que vous créiez là. C'est pas seulement ce qu'on veut faire mettre, c'est des drains. Normalement, c'est aussi en terre cuite et ça peut assainir dans certains cas la maçonnerie. Mais là, votre cas, c'est un problème de condensation. Faut traiter l'air, faut renouveler l'air. Ça va être les grands enjeux dans les années qui vont venir. Je sais que des réglementations sont en train de se préparer. J'en parlais hier après-midi avec un spécialiste du sujet. La ventilation, le renouvellement de l'air dans les maisons va être le grand enjeu des futures années.
Faire appel à quel type de professionnel pour...
C'est justement maintenant c'est des métiers un peu transversaux. Vous avez des électriciens qui font ça. Vous avez aussi des maçons et peut-être, et dans certains cas, des couvreurs. Vous voyez, année. Donc c'est un peu large, mais vous tapez ventilation mécanique contrôlée sur votre internet préféré et vous allez avoir des professionnels qui vont apparaître. Mais je sais, c'est pas très facile. C'est pour ça qu'il va y avoir cette profession va être prochainement réglementée.
Ok.
Voilà
Guillaume.
Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée.
Voilà, et si tout comme Guillaume, vous voulez joindre Christian PC, ça se passe au 32-16, vous le savez. 32-16 ou bien l'appli RMC et Direct Studio. Allez, on enchaîne sur votre coup de cœur, Christian.
Oui, alors...
Et dans un instant, nous aurons Christine, justement, qui veut réagir sur les punaises de lit. On écoute d'abord votre coup de cœur et après, on aura Christine.
Bon, alors,
allez-y.
c'est le plan anti-punaise, on va dire, qui est lancé par le gouvernement devant la prolifération inquiétude de cette petite saloperie d'insectes. J'avais annoncé ici même, le 19 janvier, j'ai recherché chez mes archives, 2013, j'avais annoncé que ça allait devenir une catastrophe. Bah, c'est devenu une catastrophe. On ne peut que se féliciter du plan qui est annoncé aujourd'hui devant ce qui prend le tour d'une cata nationale. Alors, la punaise, autrefois, elle était associée à des immeubles insalubres, essentiellement. Elle touche désormais à peu près tous les logements, y compris les hôtels de luxe de la capitale, car cette punaise est devenue une grande voyageuse. Elle transite tout simplement par avion, dans les bagages, même elle se loge des fois dans les semelles de chaussures, c'est vous dire. Donc, et dans les vêtements qu'on ramène des pays où il y a davantage encore de punaises. Et puis, autre facteur de prolifération, eh bien, c'est la résistance accrue de la bestiole aux insecticides en fonte libre. Et là, je reprends les propos de Patrick à chaque fois sur ce leitmotiv des produits insecticides de moins en moins efficaces. Donc, d'un côté, vous avez une bestiole qui devient de plus en plus résistante. Et d'un autre côté, vous avez des insecticides qui sont de moins en moins efficaces. La lutte la plus classique aujourd'hui, c'est la vapeur. On y reviendra, c'est-à-dire c'est le chaud qui finit par en venir à bout. On a recensé, tenez-vous bien, en 2018, 400 000 traitements de professionnels contre les punaises. 400 000 traitements.
400 000 traitements.
Et c'est une infime partie de l'ensemble de ceux qui sont touchés par le phénomène. Alors, pour venir en aide aux victimes de la suceuse de sang, le gouvernement a développé un site. Alors, ce site, c'est stop-punaise.gouv.fr et un numéro de téléphone 08 06 70 68 06. Je répète, 08 06 70 68 06. Je l'ai mis sur la page Facebook, donc vous pouvez facilement aller le voir. Et Christian Reca, qui est à ma gauche, me confirmera certainement que la punaise de lit n'est pas vectrice de maladie, mais elle peut provoquer des allergies et des démangeaisons assez graves.
C'est très terrible parce que c'est récurrent et on a du mal parfois à s'en séparer.
Christian, alors les deux Christian, la paire, Christian, la paire, on peut dire.
Oui, il n'y en a pas deux.
Les paires, l'idéal.
On a Christine au 32-16. Bonjour Christine.
Bonjour.
Bienvenue Christine sur RMC.
Merci.
Vous nous appelez de quel endroit ?
Montpellier.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à Montpellier avec les punaises ?
Eh bien, moi, je me suis retrouvée un beau jour avec une chambre où je me suis aperçue que la literie, en fait, était envahie, mais en un temps, en temps record. Quoi,
parce record,
que
je... ouais, oui.
Ah oui, vraiment temps record. Et en fait, je m'en suis aperçue parce que mon fils se levait et était couvert
de rougeur, oui.
Voilà, de plaques, de morsures. Donc, en fait, on a pris le problème à bras-le-corps parce que c'était l'été dernier, en fait. Hein, donc, on n'en parlait pas tant que ça. Donc, on a acheté des bombes, on a vidé la chambre. Laissé le mobilier, mais on a vidé la chambre des occupants. Et on avait la chance, a priori, d'avoir que cette chambre qui était infestée et... quelques rares spécimens sur un canapé au salon. Donc, en fait, on a traité avec des bombes plusieurs fois.
Oui, mais...
On a détruit le lit, le matelas, etc.
Ah, voilà,
on a
c'est ça, il faut dire. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez tout enlevé.
Au moins tout ce qui concernait le lit, ouais. Parce que même dans les tubulures du lit, il y en avait. Donc même, je me suis dit, même en faisant des bombes, ça va même pas arriver à pénétrer dedans. Donc ça, on a détruit, on a remis une literie neuve avec les pieds dans de la terre de diatomée, toutes les plantes traitées en terre de diatomée, etc. Et au jour d'aujourd'hui, dans cette chambre, il n'y en a plus jamais eu, touchant du bois. Et sur les rares que j'avais sur le canapé, je surveille tous les jours parce que ça devient une psychose. Hein, depuis
bien sûr.
Alors
bien
vous savez, il y a une chambre syndicale là-dessus, c'est la CS3D. CS3D. Et c'est là que vous aurez vraiment l'accès à des professionnels qui, eux, sont capables d'éradiquer les choses. Je veux pas être Cassandre, mais quand on le fait soi-même, très souvent, ça revient au bout de quelques années, au bout de quelques mois. Mmh. C'est une galère.
Comment fait-on le diagnostic de cela, quand on n'a jamais vu de punaise de sa vie, c'est quoi le
truc? Quand on est couvert de
il y a des petites
de
morsures, c'est ça?
Comment on les murcir?
Christine peut nous expliquer d'ailleurs comment votre fils avait quoi? Des petits boutons?
C'était des boutons en ligne.
Ah oui,
des
d'accord.
Des boutons en ligne. Et puis après, on a, quand on a épluché le truc, on a vu les bestioles.
En fait, vous avez
on a pensé quand on a des chats que c'était des tiques. Mais en fait, pas du tout.
La seule chose, c'est que ça n'est pas vecteur de maladie. C'est vecteur d'allergie, mais pas vecteur de maladie, a priori.
Christian n'est pas d'accord,
contre,
forcément.
Je dirais qu'il n'y a pas de littérature scientifique rigoureuse sur le sujet. Dès lors qu'il y a excoriation, parce qu'il y a démangeaison, forcément, on risque d'avoir une pathologie dermatologique majeure, mais on peut avoir la pénétration de bactéries. Mais je pense que ces punaises transportent quand même des choses qu'on n'a encore pas identifiées. On en reparlera dans une grande émission.
On fera une émission là-dessus avec le
docteur. Mais par contre, une question, c'est qu'au bout de combien de temps où on n'en retrouve plus, on peut considérer que l'invasion initiale est terminée? Combien de temps ça peut éventuellement rester?
C'est ma question, parce que moi je surveille tous les jours. C'est une maison individuelle?
Oui.
Bon, donc vous avez une chance. Si vous avez pu éradiquer véritablement les choses, normalement, c'est quelques mois que ça réapparaît. Si ça ne réapparaît pas dans les quelques mois, on peut peut-être être tranquille. Sauf que c'est surtout aussi ce qu'il faut traiter. Vous avez évoqué les plaintes, les rainures de parquet. Si vous avez des parquets avec des rainures un petit peu, vous savez, le joint entre les lames de parquet, tout ça se traite bien aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêter les produits de traitement, c'est utiliser la vapeur. C'est-à-dire passer un nettoyeur vapeur régulièrement sur tous ces interstices. Et puis, effectivement, quand vous avez un canapé qui est infesté, la meilleure des choses, c'est encore la poubelle, c'est encore la déchetterie, parce qu'il y a toutes les chances que ça puisse rester et réapparaître dans les mois qui viennent.
Christine, merci beaucoup pour ce témoignage. Et alors, autant vous dire que sur Dira Studio, on a eu plusieurs comme ceci. C'est pour ça que ça nous inspire peut-être. Il faudrait peut-être faire une émission sur ce sujet.
Mais on va faire une émission
avec Christine.
Entre-temps, il va aller chercher s'il y a de la littérature.
Voilà, très bien. Christian Pesson, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour notre rendez-vous maison. Et Monsieur Rekia sera à mes côtés pendant notre rendez-vous.
Et oui, nous venons d'avoir la perle idéale de notre émission.
Alors, on va parler des centenaires. Vous allez nous donner la recette miracle pour qu'on vive jusqu'à plus de 100 ans, Christian.
L'émission est faite que pour ça.
Voilà, vous vous engagez.
Depuis que vous vous êtes engagé sur l'émission, François.
Oui.
Eh bien, c'est grâce à vous, nous faisons une émission que pour devenir centenaire dans d'excellentes conditions.
Et puis, on parlera de la viande. La viande est bonne pour la santé. Il faut en manger raisonnablement, comme toujours.
Avec des légumes, raisonnablement, mais il faut de la bonne qualité de viande. Et là, nous aurons un grand témoin.
Voilà, un grand éleveur qui élève lui-même ses bœufs. À la fois du charolais et même du wagyu.
Trois quarts d'heure avec lui, c'était merveilleux. Il est vétérinaire, vous verrez, c'est un homme passionné.
La météo, les infos, on est de retour sur RMC, à tout de suite.